Alors, ça va être une étude.
Comme je disais, j'ai beaucoup de mal depuis quelques mois maintenant. Hein, ça, j'ai beaucoup de mal à faire des messages. Ben pourquoi le Seigneur, il met sa main sur moi et dit oh, un message, c'est pas pour toi. Bon, voilà. Voilà, on va commencer par une prière. Et voilà, Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions et nous te demandons par la parole que je vais prononcer aujourd'hui, que je vais proposer, que nous puissions grandir dans la vérité, que nous puissions grandir dans la connaissance, dans la compréhension de ton projet, Seigneur. Merci pour ça, merci pour l'Esprit Saint que tu nous envoies, merci pour cette louange qui nous a conduits près de toi. Merci Seigneur. Alors, si vous avez une Bible, on va étudier Michée, qui est un prophète qui est arrivé autour de 870 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'est un petit prophète, il est considéré comme tel, mais qui dit des choses intéressantes. Et donc on va étudier à partir du verset 1 et on va aller au fur et à mesure, on va décortiquer ce que dit ces versets un à un. Et de temps en temps, je prendrai une autre Bible, la Bible de Chouraki, pour avoir un éclairage un peu différent. Et il me semble que c'est important, quand on étudie la parole de Dieu, d'avoir une, deux, trois, peut-être plusieurs Bibles, je ne sais pas. Actuellement, j'utilise beaucoup la Seconde et puis la Chouraki. Mais bon, il y en a d'autres. Et ça donne toujours un éclairage nouveau, différent, parce que je disais la dernière fois, en petit préambule, hein, en introduction, quand on traduit la Bible de l'hébreu en français ou dans une autre langue, ou qu'on traduit du grec dans une autre langue, on perd forcément des choses, des informations. Et donc c'est un choix. Le traducteur doit faire des choix. Et alors de l'hébreu, c'est très 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 contraignant. Enfin, on perd énormément d'informations parce que un mot hébreu peut donner plusieurs sens, voire une dizaine de sens, voire des fois des contresens. Et donc c'est le contexte du texte qui nous oriente. Voilà. Alors, Michée 4. Il arriva dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet de des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Bon. Alors, dès le début, on s'aperçoit que c'est un texte qui va parler de la fin des temps. Quand on parle des montagnes, de la maison de l'Éternel, ou quand on parle de mont, puisque dans la traduction de Chouraki, on parle de mont, il faut comprendre que les monts et les sommets sont des autorités. Donc, voilà, il y a une interprétation, c'est pas forcément une montagne qu'on a devant nous, mais des autorités. Ça veut dire que la montagne de l'Éternel, en Israël, en Jérusalem, ça sera une autorité la plus élevée. Alors, maintenant, on va le deuxième verset. Des nations s'y rendront en foule et diront : Venons, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Alors, la maison de Jacob. Jacob a eu beaucoup d'enfants. Il a eu 12 enfants. Donc il y a eu Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Gad, Aser, Joseph, Benjamin, Dan et Nephtali. Il faut savoir que Ruben, étant l'aîné, devait avoir normalement le droit d'aînesse. Il a perdu son droit d'aînesse parce qu'il a couché avec Bila, la dernière femme de Jacob. Donc voilà, la sanction est tombée. Ruben n'a pas eu le droit d'aînesse. Celui qui a eu le droit d'aînesse, c'est Joseph. Et celui qui a eu la royauté, curieusement, c'est Judas. Donc, dans cette famille de 10 enfants, on s'est partagé la royauté et le droit d'aînesse. Joseph, vous savez son histoire, il a été... la famille l'a évincé, ils l'ont mis dans un trou, il a été vendu comme esclave, il est arrivé en Égypte. Il s'est marié, enfin il a d'abord été emprisonné, ensuite on a reconnu ses qualités, il est devenu vraiment un homme très important au niveau de la gestion des affaires courantes, hein, mais vraiment c'était très important. Et là il a eu deux fils, Manassé et Éphraïm. On reviendra après dessus, hein. Alors verset 2, on parle de Sion sortira la loi. C'est ce que vous avez dans vos bibles. Dans la Chouraki, on parle, oui, de Sion sortira la Torah. Eh bien, il y a une notion importante à comprendre dans la Torah, c'est pas la loi, il faut comprendre enseignement et commandement. Donc en fait, nous avons traduit, nous, loi, qui est vraiment une contrainte, la loi c'est la loi, on ne peut pas y déroger, mais la Torah, c'est Dieu qui nous enseigne et qui donne effectivement des commandements, mais voilà, il dit, il nous donne toujours choisis la vie. Si tu prends pas la vie, tu vas choisir la mort. Nous sommes donc libres de choisir, mais voilà. Donc, la Torah, enseignement. Verset 3. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes lointaines. De leurs glaives, ils formeront des oyaux, je ne sais pas comment on dit, et de leurs lances des serpes. Alors, oyaux, c'est une petite houe à lame courbe taillée en biseau. J'ai pris ça dans le dictionnaire. Verset 4. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Alors, ils habiteront chacun sous la vigne et sous son figuier. J'ai regardé, c'est une expression qui veut dire que être sous la vigne et sous son figuier, ça signifie être en état de paix et de prospérité parfaite. Donc dans ce temps-là, on sera vraiment dans une paix complète, prospérité. On dit aussi il y aura personne pour les troubler dans notre traduction. Chouraki dit sans perturbateur. Et là je pense que c'est plus précis, sans perturbateur, on pourrait désigner Satan. Plus, Satan n'est plus là. Donc il n'y a plus de trouble. Verset 5. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Alors, ici, j'ai noté que tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, la version Chouraki, c'est « Oui, tous les peuples iront chaque homme au nom de ses Elohim. C'est pareil, c'est les dieux. Et là, je suis un peu surpris, parce que c'est les nations qui sont avec leurs dieux. Et j'ai pas, bon, moi, j'ai pas trouvé d'explication à ça. En réfléchissant, je me dis peut-être que ce n'est pas encore le temps du millénium, c'est-à-dire qu'on est encore dans cette partie de temps où les nations sont encore puissantes, actives, et que ils ont leur dieu. Puisque quand on passera au millénium, il n'y aura plus que Dieu, l'Elohim, sur terre. Il n'y aura plus que lui. Voilà, j'ai une explication qui est la mienne, hein, c'est pas forcément une vérité. Voilà. On va passer maintenant au verset 6. En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Alors, moi j'étais un peu perplexe par ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en regardant dans Chouraki, il est noté ceci. En ce jour, harangue de Adonai, Dieu, je réunirai la boiteuse et la bannie, je les grouperai avec celui à qui j'avais fait du mal. Je répète, en ce jour à rang de Adonai, je réunirai la boiteuse et la bannie, je les regrouperai avec celui à qui j'avais fait du mal. On voit ici trois identités. La boiteuse, la bannie et ceux que j'avais fait du mal. Donc on peut se poser la question, qui est la boiteuse? Qui a été chassé et banni? Et qui sont les maltraités? Alors, on va commencer par les maltraités. Et on trouve dans la Bible, on trouve des indices en fait. Qui est-ce qui a été maltraité jusqu'à ce jour? C'est Judas. On trouve dans la Bible, je ne vais pas donner les versets, mais on trouve dans la Bible que Judas, malgré ses péchés, malgré ses problèmes par rapport à Dieu, ses abandons, ils ont aussi, adoré des faux dieux. Malgré ça, Dieu va les garder, mais il leur enverra des épreuves. C'est dans ce sens qu'on dit que Dieu a fait du mal à Judas pour que Judas puisse, à travers ses épreuves, retourner à Dieu. Maintenant, on peut essayer de comprendre et de chercher qui a été chassé, qui a été banni. Et en fait, on trouve dans la Bible... un moment donné où il va avoir une séparation dans les années 930 avant Jésus. Il va avoir une séparation entre les 10 tribus qui est représentée par Éphraïm. Voilà, représentée par Éphraïm. Donc les 10 tribus. Il va y avoir une séparation, le royaume du nord et le royaume du sud. Dans le royaume du sud, il y aura Judas et il y aura les Lévites. Dans le royaume du nord, tout le reste, les 10 tribus. Et ça va être, il va y avoir le premier roi, Jéroboam I, qui va instaurer une nouvelle directive. Il va abandonner Dieu. Ils vont créer des nouveaux dieux, il va avoir Baal, ils vont adorer Baal, c'est-à-dire des sacrifices humains, des sacrifices d'enfants. C'est vraiment quelque chose d'horrible. Et les rois qui vont se succéder feront la même chose. Jéroboam va faire ça pour garder son pouvoir. Il ne veut pas partager son pouvoir avec Roboam, qui est lui en Juda, qui ont gardé, eux, les préceptes d'Israël, de Dieu, et voilà, ils tiennent la parole, ils s'y accrochent. Mais du côté de Jéroboam, du côté du royaume du Nord, c'est une décadence. Et Dieu voit ça, et la punition de ça, c'est il va les chasser. Il va les chasser d'Israël. Il mettra 200 ans, Dieu mettra 200 ans avant d'intervenir et d'envoyer les pays voisins pour attaquer. Et là, ça va être la déportation. Ils vont être complètement embarqués. Les dix tribus vont être embarquées et envoyées dans le monde entier. Alors, on peut voir dans Jérémie 3:8, hein, la lettre de divorce. Parce que on parle de la personne qui... Alors, Jérémie, hop, 3:8... Quoique j'eusse répudié l'infidèle, Israël. Alors, on parle d'Israël. Israël étant Jacob. Jacob ayant les fils de Manassé et d'Éphraïm. C'est bien d'Éphraïm qu'on parle, et donc des 10 tribus. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. On voit dans ce verset qu'il parle d'Israël, mais en même temps il parle de Juda, qui ont les mêmes problèmes. Donc Dieu va avoir une attitude différente pour Israël, donc Éphraïm, et pour Juda. Donc voilà, on connaît maintenant la personne qui est la bannie. La bannie, c'est donc Éphraïm, les 10 tribus. On va regarder maintenant le verset 7. Alors j'ai pris la version, verset 7, version Chouraki. Hop, Miché. De Michée, hein. Michée, verset 7. Je mettrai la boiteuse avec le reste et l'épuiser en nation vigoureuse. Adonai régnera sur eux au mont Sion maintenant jusqu'en pérennité. Alors, j'ai pas noté ce que était noté sur vos traductions, mais il faut comprendre ici que la boiteuse va être rassemblée avec la bannie. Et on parle souvent de l'olivier qui est, par exemple pour nous qui sommes branchés, enfin comment dirais-je, rajoutés à la branche, à l'olivier naturel. Et nous sommes raccordés, branchés sur cet olivier. Et dans l'étude qui est là, on peut dire que dans le monde entier, Éphraïm a été dispersé. Dans le monde entier, sans jamais avoir été persécuté comme Juda. Et on considère qu'au jour d'aujourd'hui, Éphraïm aurait à peu près 350 millions d'habitants. Alors, ils sont répartis, on ne sait pas où, mais ils sont là. Et je pense que Éphraïm a oublié ce qui était Dieu, mais Dieu n'a pas oublié Éphraïm. Et donc, il va susciter les cœurs d'Éphraïm, il va les appeler. Je ne sais pas par quel moyen, mais il va le faire. Et ça va être un réveil extraordinaire. Et nous, la boiteuse, parce que c'est nous, la boiteuse, ce sont les chrétiens de tous les pays, nous allons nous greffer avec eux parce qu'ils sont parmi les nations. Alors, on va, il y a un... Voilà, je vais vous dire la punition que va recevoir Éphraïm, c'est-à-dire les dix tribus. Le royaume du nord prend fin, ça s'arrête. Ils ont été envahis. Il faut savoir que quand le peuple a été envahi et déporté, tout le peuple a été remplacé par d'autres personnes, toute la population. Dieu ne pardonnera plus à Éphraïm. Éphraïm n'est plus le peuple de Dieu. C'est incroyable. C'est vraiment un divorce, hein. L'Éternel n'est plus son Dieu. Éphraïm considère la Torah de Dieu comme quelque chose d'étranger. Même Éphraïm considère que Dieu n'existe pas. C'est quelque chose qui ne l'intéresse pas. Éphraïm sera sans sacerdoce et sans sacrifice. Il est condamné à une famine spirituelle, apprenant sans comprendre et sans retenir. C'est-à-dire qu'effectivement, si Éphraïm veut apprendre la parole, il ne la comprend pas. Éphraïm est condamné au mélange avec le monde, à l'assimilation avec les nations. Il perd ses racines. Alors, on peut voir quelque chose qui est intéressant dans Jacob. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ça ? Dans Genèse 48. 48. Et je le prends dans ma version Chouraki. Vous pouvez la lire, vous, de votre côté, hein. Vous verrez un peu des différences. Donc, Chouraki, Genèse 48, 15 à 19. Donc, on est avec Jacob qui va bénir, qui va faire la bénédiction des fils de Joseph. Alors, il bénit Yosef, c'est Joseph, et il dit « L'Élohim, en face de qui mes pères Abraham et Isaac sont allés, l'Élohim est mon pâtre depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Le messager qui me rachète de tout mal bénit les jeunes, c'est-à-dire Manassé et Éphraïm. Mon nom sera crié sur eux, et le nom de mes pères, Abraham et Isaac, ils poissonneront multiples au sein de la terre. Yosef voit que son père place sa main droite sur la tête d'Éphraïm. C'est mal à ses yeux. Il pousse la main de son père pour l'écarter de la main d'Éphraïm vers la tête de Manassé. Waouh. Bon, c'est un moment important, ça. Parce que, voilà, Jacob va bénir les enfants, et de sa main droite et de sa main gauche, de sa main droite, il va bénir celui qui va devenir qui va avoir l'autorité, qui va avoir comment on appelle ça, le droit d'aînesse, voilà, merci. C'est le droit d'aînesse. Et pourtant, Éphraïm n'est pas l'aîné, c'est le deuxième. Et donc, Joseph dit non, c'est lui qui va être l'aîné parce qu'il sera beaucoup plus nombreux que Manassé. Et ce qui est important, c'est que on parle de poisson. Ils poissonneront multiples au sein de la terre. Alors ça, c'est très curieux, parce que des poissons qui sont sur la terre, c'est un peu étrange. Mais on peut ce verset est important parce qu'on peut le ramener avec le Nouveau Testament où Jésus nous dit : je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et là, il y a un lien direct entre ils poissonnent au sein de la terre et pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire que la mission qui donne Jésus à ce moment-là, c'est d'aller récupérer Éphraïm et les 10 tribus. Ils sont perdus, on ne sait pas où ils sont, mais Dieu sait où ils sont. Voilà. Alors, on peut parler, alors la lettre d'Éphraïm, j'en ai parlé. Voilà. Je vais arrêter là. C'était juste pour vous montrer un peu comment on peut étudier un texte et de voir avec une autre Bible, de voir un peu comment les choses fonctionnent et de réfléchir au sens des mots et comment. Alors c'est vrai qu'il faut fouiller, hein, faut aller à droite, à gauche. Bon, c'est une étude qui vient pas de moi, hein, ça c'est certain que c'est moi, je l'ai entendu et j'ai repris cette étude en me disant voilà, je vais reprendre verset par verset, les expliquer et prendre d'autres versets qui éclairent, qui donnent un éclairage par rapport à ce qui est dit. Voilà, en mettant un peu d'historique derrière par rapport à Éphraïm qui est perdu dans le monde et nous qui sommes la boiteuse. Alors on peut s'interroger pourquoi nous sommes boiteux. J'ai pas eu vraiment de réponse par rapport à ça, mais il me semble qu'on est peut-être boiteux parce que on a trop occidentalisé la parole de Dieu et on en a fait quelque chose à nous. Et je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, c'est voilà, mais Dieu prend cette boiteuse, il la prend, c'est encourageant, je trouve. Parce qu'il ne va pas nous laisser tomber. Dieu va dire, ben, voilà, ils sont comme ils sont, je les prends. Ils avaient un cœur pour moi, ils ont un cœur pour Dieu, un cœur pour l'Élohim. Et voilà, Seigneur, on te remercie pour ça. Alors, voilà, je ne prétends pas connaître la vérité, la seule vérité. Non, non, je simplement donner un éclairage par rapport à tout ce que je viens de dire. Voilà, je vais prier. Merci Seigneur pour ta parole et pour ton beau projet. Merci Seigneur parce que tu veux rassembler ton peuple. Tu veux rassembler Juda et Éphraïm, les 10 tribus perdues, et ne faire qu'une seule et même maison. Que les 12 tribus soient réunies et tu rassembles la boiteuse. Tu en fais un tout, tu ramasses tout et tu en fais un tout. Alors je te remercie Seigneur pour ce projet d'amour que tu as pour l'humanité, que tu as pour les 12 tribus, pour nous. Merci Seigneur. Gloire à toi.